présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Difficile de savoir précisément le nombre d'enfants qui en France chaque année périssent sous les coups de leurs parents ou d'un proche. Combien d'autres subissent des sévices qui mettent en danger leur santé physique et mentale? Et si les chiffres varient, eh bien une tendance est claire. La maltraitance est un vrai problème de santé publique et une question de société dont le silence et l'indifférence sont les puissants complices. Brûlures, ecchymoses, fractures, troubles du comportement, certains signes doivent pourtant alerter. L'entourage, le milieu scolaire ou médical, pourtant, moins de 5% de ces cas de maltraitance infantile sont révélés, signalés par le corps médical. Et c'est pour mieux sensibiliser la profession que la Haute Autorité de Santé vient de publier de nouvelles recommandations sur le diagnostic du syndrome du bébé secoué, ce grave traumatisme crânien intentionnel qui provoque la mort de 200 nourrissons chaque année en France. Avec nous, professeure Catherine Adamsbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service imagerie pédiatrique à l'hôpital Bicêtre à Paris. Également, studio avec nous, le docteur Cédric Grouchka, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Tout à l'heure, nous rejoindrons au Sénégal Ndeye Fatou Faye, psychologue clinicienne au centre de guidance infantile et familiale de Dakar. Et puis nous partirons tout à l'heure aussi à Madagascar pour faire un nouveau point sur l'épidémie de peste dans la grande île. Médecins sans frontières intervient à Tamatave sur la côte est en soutien aux équipes de santé malgaches. Le numéro de Priorité Santé, bien sûr, vous pouvez réagir, vos témoignages, vos questions. C'est le 33 1 84 22 75 75. C'est une douzaine de pages destinées aux professionnels de santé, une fiche mémo maltraitance chez l'enfant, repérage et conduite à tenir, document qui vient d'être mis à jour par la Haute Autorité de Santé, dont vous présidez la commission des stratégies de prise en charge, docteur Cédric Grouchka. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de réactualiser ce dossier, ce document?
Alors d'accord, d'abord c'est une réactualisation sur l'ensemble des maltraitances infantiles, pas uniquement sur le syndrome du bébé secoué, mais sur toutes les maltraitances sexuelles, maltraitances physiques, maltraitances psychologiques. Il est absolument nécessaire de réactualiser les choses, d'abord parce que sur le syndrome du bébé secoué, il y avait des évolutions récentes, notamment au plan de l'imagerie médicale, dont parlera le professeur Adamsbaum probablement, mais sur l'ensemble des maltraitances, il est toujours nécessaire de dire aux professionnels de santé qu'ils doivent y penser, alors qu'ils croient que c'est rare, c'est fréquent. Ils ne connaissent pas les signes parce qu'on leur a jamais appris et donc il faut leur apprendre ce qu'il faut repérer. Et une fois qu'ils y pensent, il faut qu'on leur dise quoi faire parce qu'ils sont démunis, bien seuls, pour savoir quoi faire après.
Alors ce document, il est très concret puisqu'à la fin, il y a même des pages de signalement. C'est une sorte de vademécum. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, en dehors peut-être des urgences pédiatriques, il n'y a pas encore une véritable sensibilisation à cette question ?
Elle est de plus en plus forte, bien évidemment, et nous avions commencé à faire des recommandations dès 2011, donc les choses évoluent, bien évidemment. Mais pas suffisamment. Vous savez, vous avez parlé de problèmes de santé publique tout à l'heure. C'est pas un problème, c'est un fléau. C'est un drame de l'ombre. Il est très occulté, très sous-estimé, mais c'est un véritable fléau de santé publique parce que c'est à la fois fréquent et grave.
Mais parce que les gens ont besoin toujours de s'appuyer sur des chiffres, de données chiffrées pour savoir. Là, comme c'est flou, eh ben, comme on n'a pas de chiffres, peut-être qu'on n'en parle pas aussi pour cette raison, parce qu'on n'a pas dans les esprits de quoi se fixer les choses au-delà, bien sûr, de l'énorme tabou que cela représente.
Vous avez raison. Il y a plusieurs raisons, effectivement, à ce tabou. Mais la première, c'est la méconnaissance. Et donc, il faut que les données arrivent par de la recherche. On a quand même des extrapolations qu'on peut faire. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, sur l'inceste, sur mineurs, sur la maltraitance sexuelle. On peut raisonnablement penser qu'on passe à côté de 90% des maltraitances sexuelles sur mineurs. Ça veut dire qu'on en a à peu près aujourd'hui en France 300 nouveaux incestes par jour. C'est de l'ordre de 100 000 par an. C'est un véritable drame qui surgit dans l'ombre et qui est occulté à la fois par la société et par la méconnaissance du problème. Sur les décès des nouveau-nés, on a le même sujet. Les remarquables travaux d'Anne Turtz à l'INSERM ont montré que lorsqu'on étudie les certificats de décès, en réalité, on a 15 fois plus de décès de nourrissons de moins de 1 an liés à la maltraitance que les certificats de décès ne le disent. Troisième exemple, on a aujourd'hui en France 1 à 2 décès d'enfants de moins de 15 ans liés à la maltraitance.
ces constats, comment les expliquer? On a parlé du tabou, on a parlé des sous-déclarations. Comment l'expliquer? C'est vraiment ça, parce que je vais vous dire, ça laisse sans voix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change?
Absolument. C'est parce que ça nous laisse sans voix que la Haute Autorité de Santé a décidé de parler. Et on doit parler d'abord aux professionnels, mais aussi à la société. Il y a un vrai tabou dans la société qui est de croire au dogme encore que la famille ne peut être que naturellement bonne protectrice. Or, il faut accepter que dans 10% des cas, parce qu'en gros, on peut estimer qu'on a en gros 10% d'enfants maltraités de façon à peu près générale en France, que parfois la famille peut être maltraitante. Donc, c'est le premier tabou. Le deuxième tabou, c'est que la maltraitance n'est pas liée à une catégorie socioprofessionnelle. Ça, on la retrouve dans toutes les couches de la société, et y compris dans des familles non isolées, dans des familles très bien insérées, très socialisées, très aisées. Et ça,
c'est un phénomène aussi qu'on retrouve pour les violences conjugales.
Hein. Exactement.
C'est pas simplement une affaire entre guillemets de pauvres.
Absolument, absolument pas. Ce n'est pas l'environnement de la précarité, de la difficulté, de la désocialisation qui crée les conditions de la violence, mais c'est un problème de relation profonde de l'adulte, du parent, avec l'enfant. Et c'est cette problème de relation qui crée les germes de la violence. Ce n'est pas l'environnement. Et ça, c'est un deuxième tabou, parce que du coup, on les repère pas.
Alors, il y a la question de société qu'on évoque. Là, il y a aussi la question de santé. Comment repérer? Et pour cela, eh bien, il y a des outils concrets, justement. C'était au centre des journées francophones de la radiologie qui ont eu lieu la semaine dernière, 14-15 octobre à Paris. Sujet de la maltraitance infantile, professeur Adamsbaum, c'était justement au cœur de votre intervention. Est-ce qu'on peut dire, justement, qu'en la matière, il y a des avancées? On pense, bien sûr, au dépistage.
Bien sûr, il y a des avancées dans les connaissances en imagerie du cerveau, en imagerie du squelette aussi, puisqu'il y a des fractures associées au syndrome du bébé secoué. Et il y a aussi une avancée très importante dans la prise de conscience de ce qu'apporte la médecine à la justice, et en particulier de ce qu'apporte l'imagerie à la justice. Et d'ailleurs, à ces journées francophones de radiologie, il y a eu des magistrats avec nous, et inversement, nous enseignons, j'enseigne moi-même, à l'École nationale de la magistrature et même à des colloques à la Cour de cassation.
Quand on est radiologue, ça veut dire que quand on voit certaines fractures, certaines lésions, on se dit, ça, c'est sûr, c'est de la maltraitance infantile, ça ne peut pas être une chute, comment ça se passe?
Alors, ça se passe de la façon suivante. En général, le diagnostic n'est pas forcément soupçonné par le pédiatre ou le généraliste qui va recevoir l'enfant. L'enfant est souvent jeune. En ce qui concerne l'intervention de l'imagerie, c'est surtout chez les moins de 2 ans que le radiologue intervient beaucoup. Il n'y a pas forcément de bleu, d'ecchymose sur lui. Ça peut être un enfant qui tout simplement a changé de comportement ou vomi, ce qui va inquiéter son entourage, et il vient aux urgences. Ça peut être d'ailleurs l'auteur des violences lui-même qui amène l'enfant, pas forcément les parents, mais ça peut être une autre personne qui amène l'enfant alors que cette autre personne ne sait pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, si l'enfant n'a pas d'ecchymose, le diagnostic n'est pas soupçonné, il n'a aucune raison d'être soupçonné, le médecin qui reçoit l'enfant ne va pas penser d'emblée que c'est une maltraitance. Et la règle est de demander en particulier un scanner cérébral très largement chez les nourrissons. Et sur ce scanner cérébral, nous voyons, le radiologue voit, des hématomes qui ne sont pas expliqués, pour lesquels il n'y a pas eu d'accident. Et là, nous allons commencer à envisager le diagnostic de maltraitance. Alors, pour répondre...
Et si c'est sur justement cette partie de la tête, pour parler concrètement, soupçon du syndrome du bébé secoué?
Soupçon de syndrome du bébé secoué, absolument. Et bien entendu, pour répondre à votre question, nous avons des signes cardinaux qui nous permettent d'arriver au diagnostic, mais il est à notre charge d'éliminer point par point toutes les autres possibilités. Par exemple, il faut éliminer le fait que l'enfant puisse avoir des troubles de l'hémostase, qui ne soit pas hémophile. Un enfant hémophile peut saigner plus facilement. Donc tout ça, nous avons une liste que nous déroulons et que nous éliminons, et nous arrivons comme ça au diagnostic avec une bonne certitude.
Docteur Cédric Grouchka, justement, on parlait de ce document tout à l'heure. parmi les dernières feuilles, il y a les feuilles de déclaration du médecin. Oui. Et là, on voit à quel point c'est précis, des guillemets, citer la personne qui accompagne, parce que bien sûr, ces éléments, ils pourront être repris au moment, éventuellement, des poursuites judiciaires.
Absolument. Vous savez, c'est fondamental que les médecins comprennent que signaler des soupçons, une présomption de maltraitance infantile, c'est un acte médical et ce n'est pas un acte judiciaire. C'est dans l'exercice médical, c'est la continuité de l'exercice médical, c'est une obligation d'abord bien sûr du citoyen, il faut le rappeler, mais c'est une obligation aussi déontologique d'éviter que l'aggravation de la santé de l'enfant se poursuive. Donc c'est un acte non judiciaire. Les médecins ont peur parce qu'ils croient qu'on leur demande de se substituer à la justice ou à la police. Ce n'est pas le cas, on leur demande surtout pas de dénoncer, surtout pas d'enquêter, surtout pas de désigner qui que ce soit, on leur demande juste de constater. C'est pour ça que nous faisons un guide très précis sur la façon de signaler, pour qu'ils aient moins peur de le faire, parce que ça explique en grande partie aussi, par-delà la méconnaissance que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait que 5% des signalements qui soient réalisés par les médecins, contre 30% pour les services sociaux, 20% pour l'éducation nationale quand même. Donc ça veut dire que quelque part, il faut les aider à comprendre que signaler, c'est protéger l'enfant, ce n'est pas dénoncer.
Professeur Catherine Adamsbaum, vous êtes radiologue, vous êtes médecin. Comment est-ce que vous comprenez ces réticences de la part d'une partie de la profession ?
La réticence dans un cabinet où le médecin généraliste connaît la famille est évidente. Le médecin généraliste va se trouver en situation compliquée de détecter un cas de maltraitance chez un enfant alors que parfois il a suivi les parents et les grands-parents. C'est pour ça d'ailleurs que le conseil qui est donné, c'est d'hospitaliser au moindre doute pour ne plus être dans ce conflit qu'on pourrait presque qualifier de conflit de loyauté. Avec d'un côté le diagnostic et de l'autre la famille. Alors à l'hôpital, ce conflit est beaucoup moins marqué, mais les médecins n'aiment pas diagnostiquer une maltraitance. Ça va nous mettre dans des complications. Il va falloir expliquer aux gens, aux parents qui amènent l'enfant, qu'un signalement peut être envisagé. Il va falloir convaincre les collègues pour ce qui nous concerne. Ce n'est en général pas le radiologue qui signale, mais le pédiatre. Tout le monde peut signaler, mais les pratiques font que c'est le pédiatre. Et tout ça fait qu'un médecin est là pour soigner. Et comme le disait le docteur Gouchka, il est très important que les médecins prennent conscience que signaler, c'est protéger. Donc, c'est le début d'un acte de soin.
C'est veiller aussi à la santé des enfants.
Exactement.
Docteur Cédric Gouchka, dans les recommandations, dans les pistes que j'ai pu lire en préparant cette émission, il y avait celle de mettre en place dans chaque hôpital une forme de, pas de cellule spécialisée, mais au moins un référent qui pourrait évoquer cette question de la maltraitance, faciliter justement ce travail de mise en relation. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui ou pas ?
Alors, c'est pas quelque chose qui est organisé, mais c'est quelque chose que certains établissements ont déjà organisé, mais c'est vrai que notre cible première, il était de sensibiliser surtout le monde ambulatoire, parce que le monde hospitalier est de plus en plus sensibilisé. Bien sûr que les difficultés existent, c'est vrai, mais le monde hospitalier, il voit les choses les plus graves à un moment donné, il est sensibilisé. Le médecin généraliste, le pédiatre, le médecin de famille, il fallait vraiment lui faire prendre conscience qu'effectivement, parce qu'on lui avait pas appris et parce qu'il se sentait seul, il passe quand même à côté de 90% des maltraitances.
Et tout à l'heure, vous citiez ce chiffre, seuls 5% des cas de maltraitance sont signalés par des médecins. Ça veut dire que c'est qui aujourd'hui ? C'est l'école ? Ou c'est les proches ?
Ouais, 30% les services sociaux, 20% l'éducation nationale. Ensuite, c'est le voisinage, la police, voilà. Et dans les 5% pour les professionnels de santé, c'est 1% en ambulatoire, 4% à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que notre cible, elle est vraiment d'abord, si je puis dire, à l'ambulatoire. Et il faut leur faire comprendre que non seulement c'est majeur pour la victime au moment où ça se passe, parce que c'est pour la soustraire, mais c'est aussi, il faut penser aux séquelles de la maltraitance à l'âge adulte, parce que c'est grave aussi à l'âge adulte. On a au plan physique 10 fois plus de troubles du comportement alimentaire, 3 fois plus de toxicomanie, 2 fois plus d'addiction, 10 fois plus de pulsions suicidaires, 4 fois plus de dépression. Bref, enfin tout ça est absolument majeur. La vie est cassée. Or, plus on dépiste tôt, plus on sort l'enfant de la maltraitance, plus la reconstruction sera rapide et plus les séquelles seront faibles.
Alors si vous le voulez bien, un témoignage tout de suite dans cette émission, on va entrer en contact avec Marina. Marina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne d'Abidjan, Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Bon, concernant la maltraitance infantile, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Parce que moi-même, j'ai été victime dans ma propre famille. J'ai été pendant 3 ans, de 6 ans à 9 ans, battue par ma belle-mère. Et aujourd'hui, je porte des séquelles. J'ai des cicatrices sur moi. Au niveau psychologique aussi, je porte ce traumatisme. Donc, ce qui fait que moi-même, j'ai peur de rentrer en famille. Quand je suis en famille, je me sens mal à l'aise. Quand je suis ailleurs, je me sens bien. Donc, mes parents m'ont toujours dit non, que c'est un truc qui va passer, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à m'y faire.
Vous disiez, Marina, vous avez été maltraitée, battue pendant 3 ans. Comment est-ce que cela s'est arrêté?
Bon, cela s'est arrêté quand j'ai quitté la cour. Parce que je suis partie dans une autre famille, c'est-à-dire chez ma camarade, que ses parents m'ont accepté. Donc, je suis rentrée.
Comment ça s'est passé? C'est vous qui aviez fait la demande? Vous aviez signalé ce qui se passait? Ou les gens s'en sont rendus compte autour de vous?
En Côte d'Ivoire, ici. En tout cas, c'est moi qui ai pris l'initiative d'en parler à ma camarade. Et elle a fait le point à son père, qui est lui-même instituteur, qui a essayé de convaincre mon père sans toutefois évoquer le sujet. Donc, c'est comme ça que je suis partie.
Il vous a pris en charge et en quelque sorte, et bien ce changement vous a sauvé la vie.
Beaucoup. M'a beaucoup sauvé la vie. Aujourd'hui, j'ai un master 2 en droit et je compte défendre le droit de l'enfant.
Tirez donc les enseignements de votre propre expérience. Merci beaucoup, Marina, pour ce témoignage. On voit là l'importance d'une intervention extérieure, même si professeur Catherine Adamsbaum, cette auditrice le dit, elle a encore sur elle les séquelles physiques de ces violences. Ça veut dire que les gens savaient et les gens n'ont rien fait, à part bien sûr cette famille et cet instituteur qui l'a pris justement au sein du foyer.
Mais oui, absolument. D'abord, je salue le courage de cette jeune femme d'en avoir parlé, parce que je crois que la première chose qui fait qu'on peut s'en sortir, c'est d'en parler, de ne pas taire ce qui arrive. Et au bout d'un moment, on trouve quelqu'un, comme cela a eu lieu pour cette jeune femme, qui est sensible à la cause et qui permet d'arrêter ce cercle vicieux, parce que c'est véritablement un cercle vicieux qui s'installe.
Mais on a entendu ces derniers mois en France, il y a eu ce fameux débat sur la pénalisation de la fessée, certains parlaient de la fessée pour schématiser. Il y a encore des sociétés, de nombreuses sociétés pour qui le châtiment corporel, pour qui, je m'excuse d'être un petit peu trivial, une baffe, c'est normal. Docteur Cédric Grouchka, pour vous c'est aussi lié le tabou, la méconnaissance des chiffres, tout ça c'est aussi lié à cette question de société qui pense que qui aime bien châtie bien.
Bien sûr, je pense qu'il y a un ancrage culturel profond sur l'idée que la domination de l'adulte sur l'enfant est normale et peut entraîner, pour des raisons soi-disant éducatives, d'utiliser la violence. Je crois qu'il faut être clair, quelles que soient les cultures, quelles que soient les sociétés, quels que soient les environnements, la violence n'appelle que la violence. On ne peut pas imaginer de débat sur le fait que le vrai combat universel lié à l'enfance, c'est celui de la suppression de toute forme de violence. On ne peut pas imaginer que, pour des raisons éducatives, un acte violent qui sera ultérieurement à l'âge adulte répréhensible puisse être toléré. Ça n'a rationnellement aucun sens.
C'est pour ça qu'existent aussi les droits de l'enfant. Vous restez avec nous, docteur Cédric Grouchka, professeur Catherine Adamsbaum. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. On va continuer de parler de la lutte contre les maltraitances infantiles, enjeu de santé publique, fléau de santé publique.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve retrouve pour cette deuxième partie de Priorité Santé consacrée au rôle des soignants face aux maltraitances des enfants. Ces crimes qui transpirent de l'intimité des familles au gré de faits divers retentissants avant qu'une chape de silence ne s'abatte à nouveau sur cette brutalité à huis clos. Toujours avec nous en studio, le professeur Catherine Adamsbaum, chef du service imagerie pédiatrique à l'hôpital Bicêtre à Paris, et le docteur Cédric Grouchka, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé au sein de laquelle vous présidez la commission des stratégies de prise en charge, avec, on peut le dire, ce coup de projecteur sur le syndrome du bébé secoué. Pourquoi justement s'arrêter pas seulement, mais en particulier sur ce type de violence?
Alors, vous voulez parler du syndrome des bébés secoués dans l'ensemble des maltraitances infantiles ou
absolument.
Des maltraitances infantiles?
Alors, le syndrome.
Le syndrome. Le syndrome des bébés secoués, il a effectivement des spécificités qu'a rappelé un peu le professeur Adamsbaum tout à l'heure. Il y a des spécificités parce que, contrairement aux autres maltraitances, y compris même maltraitances sexuelles, maltraitances physiques, qui parfois sont totalement camouflées par des signes aspécifiques, on a quand même quelques éléments, et c'est pour ça que l'actualisation de la recommandation était importante, on a maintenant quelques éléments pour guider notamment les radiologues sur des signes très évocateurs, voire quasi certitude du diagnostic. Ce qu'on a rarement ou pas du tout dans les autres types de maltraitance. Donc ça vaut vraiment la peine parce que il faut quand même le rappeler que dans le syndrome du bébé secoué, quand un bébé subit un tel traumatisme, il y a quand même 50% de risque que ce geste de brutalité ne se reproduise au fil des jours et de semaines, en moyenne 10 fois voire 30 fois. Donc quand on sait qu'on a quand même 40% de mortalité et que les 60% de survivants en général ont des séquelles, des handicaps lourds à vie, il est absolument indispensable que le diagnostic soit fait, que le repérage et le diagnostic soit fait le plus tôt possible pour sauver l'enfant immédiatement. Et donc sur le syndrome du bébé secoué, on a des éléments qui sont peut-être un petit peu plus médicalement ou cliniquement concrets qui permettent de sauver les enfants plus facilement.
Professeur Catherine Adamsbaum, justement, quand un bébé arrive, il a été victime de ces, je ne sais pas si on parle de secousses ou secouement, en tout cas cette brutalité, comment est-ce que cela se voit? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est invisible?
Alors, il faut d'abord rappeler que les secouements sont extrêmement violents, ce ne sont pas des jeux. C'est un geste qui est défini comme étant considéré comme dangereux par un observateur extérieur et susceptible de tuer l'enfant. C'est la définition de l'Académie américaine de pédiatrie. Mais justement, il n'y a jamais d'observateur extérieur. C'est toujours une relation duelle entre l'auteur des secouements et le bébé. Qu'est-ce qui se passe? C'est un adulte, c'est toujours un adulte qui est excédé par des pleurs. Donc ça, c'est pour placer le contexte. Le bébé arrive comment? Soit il arrive parce qu'il est déjà dans le coma, voire décédé. Et à ce moment-là, c'est facile d'aller faire un scanner du crâne parce que tout signe neurologique impose le scanner crânien. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un enfant qui vomit. Et donc ces vomissements sont attribués à une gastro-entérite, c'est bien normal, les bébés font des gastro-entérites, et on s'aperçoit progressivement qu'en réalité il n'y a pas eu de diarrhée, et à un moment donné le pédiatre consciencieux va demander le scanner parce que l'enquête est négative, et là c'est le radiologue qui est en première ligne et qui voit le saignement dans le crâne, et qui dit « ce bébé a été secoué ouais. ». Et à partir de là... l'enquête médicale est déclenchée et parfois secondairement quand on va réexaminer l'enfant, le pédiatre trouve une petite ecchymose derrière l'oreille ou sous l'aisselle parce que l'enfant a été empoigné violemment par le thorax et il peut avoir des bleus dans des endroits où les enfants n'ont pas de bleus normalement, surtout qu'on parle de bébés de moins de 6 mois, moins de 8 mois, donc ce sont des bébés qui ne marchent pas et qui ont très peu d'autonomie.
Ça veut dire aussi que cela peut être du fait des parents, mais également des personnes qui ont la charge de garder ce bébé.
Bien sûr, alors de toute façon au stade du diagnostic, le médecin, radiologue, pédiatre n'a pas à savoir qui est l'auteur, nous avons simplement à porter le diagnostic et à hospitaliser l'enfant, ce qui est la première mesure de protection de fait. Alors, maintenant, qui est l'auteur? Nous le savons par des articles, par des enquêtes médico-judiciaires, etc. Et nous avons en particulier en France toute une série d'aveux, puisque la situation de l'expert est très particulière, l'expert est indépendant. Et nous savons que ça peut être les parents, mais ça peut être aussi la nourrice, même assez fréquemment. Et dans tous les cas, il faut faire très attention parce que les autres enfants de l'entourage peuvent être aussi l'objet d'un syndrome du bébé secoué qui n'est pas forcément reconnu au moment où on reconnaît le cas qui a été hospitalisé. Et donc la règle est de faire l'enquête dès lors qu'on sait si c'est plutôt les parents ou plutôt le milieu de garde de l'enfant. La règle est d'enquêter sur les autres enfants de moins de 2 ans. C'est presque comme un mode relationnel violent entre l'adulte et l'enfant qui pleure.
Vous restez avec nous, hein. On va maintenant retrouver le Sénégal en ligne de Dakar. Nous sommes avec Ndeye Fatou Faye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne au centre de guidance infantile et familiale de Dakar. Le CEGID également psychologue itinérante hein, dans un projet européen de renforcement du système de protection de l'enfant au Sénégal. Est-ce que la maltraitance infantile, c'est quelque chose de connu et de reconnu dans votre pays ?
Alors, d'un point de vue juridique, oui, la maltraitance est bien reconnue ici au Sénégal. En effet, notre État a à ce jour ratifié toutes les conventions relatives aux droits et à la protection des enfants. Cependant, nos sociétés ne perçoivent pas toujours en fait la maltraitance comme une pratique négative. Au Sénégal, par exemple, frapper, c'est mettre fin à la déviance. Autant dans les sphères domestiques qu'à l'école, c'est donc une pratique en quelque sorte courante, une technique d'éducation, ce qui amène les populations à banaliser et accepter ce traitement. Un exemple concret au Sénégal, quand on parle de maltraitance, notamment du service corporel, nous pensons directement à nos enfants talibés. Les enfants talibés, c'est les enfants mendiants confiés à des marabouts pour l'apprentissage du Coran. Donc c'est des enfants qui se comptent par milliers dans les rues, qui sont victimes en plus de services corporels, d'exploitation économique par les marabouts, qui leur exigent des versements quotidiens, mais ils sont également exposés à toutes sortes de violences dans la rue. Donc en résumé, les violences sur les enfants présentent, je crois, un fléau au regard des chiffres et de la situation actuelle.
Alors cette maltraitance infantile que vous décrivez, justement, quels signes vous alertent en tant que psychologue clinicienne ?
Alors, sur le plan psychologique, c'est bien sûr des signes de mal-être facilement repérables. Ça va des fugues, parce qu'en général, si on se réfère au cas que nous recevons dans nos structures, bon nombre d'enfants en fugue ont été victimes de maltraitance au sein de la famille, dans les institutions formelles ou dans les daras, c'est-à-dire les écoles coraniques. C'est de l'isolement également, un repli sur soi. L'enfant n'a plus de bonnes interactions avec ses pairs, avec l'entourage. C'est des désordres alimentaires, c'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. C'est des violences également envers autrui, de l'agressivité envers ses pairs également, etc.
Alors, vous disiez tout à l'heure, hein, les lois existent, il y a ce cadre juridique, mais qu'est-ce que vous faites ? Quelle est la procédure lorsqu'il y a justement ce constat de maltraitance ?
Alors, pour ce qui est des médecins, nous, je pense que c'est l'obligation pour tout médecin et même tout professionnel de faire un signalement aux autorités compétentes lorsqu'il est face à ce genre de situation. Moi, personnellement, je reçois dans mon institution beaucoup de cas d'enfants victimes de structures partenaires. C'est des structures partenaires, soit des structures sanitaires, c'est soit également des signalements au niveau communautaire que je reçois.
Est-ce que vous considérez qu'il y a un changement ou des changements, des modifications qui se profilent au sein de la société sénégalaise ? Vous parliez tout à l'heure justement de ces châtiments qui sont finalement choses normales. Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent ?
Bien sûr, de plus en plus ça évolue parce que je me dis qu'avec toutes les transformations sociales, de plus en plus, surtout dans les grandes villes, on voit que ça évolue, que l'enfant retrouve cette dimension sacrée qu'elle avait, mais dans les coins un peu reculés, dans les villages, je pense que l'idéologie selon laquelle les services corporels participent au redressement des déviances reste présente encore.
Merci beaucoup Ndeye Fatou Faye. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne au centre de guidance infantile et familiale de Dakar. On évoquait à l'instant justement avec ce témoignage l'obligation de signalement. Est-ce que c'est une réalité, docteur Cédric Grouchet ? Est-ce qu'il y a vraiment obligation ?
Alors, bien sûr, d'abord une obligation citoyenne. N'importe quel citoyen qui a connaissance de maltraitance infantile a le devoir de les signaler. Signaler soit au procureur de la République et la justice, soit au conseil départemental qui est en charge de la protection de l'enfance pour dans le cadre d'une information préoccupante. Donc, c'est un devoir de citoyen. Ensuite, il y a des devoirs déontologiques que j'évoquais tout à l'heure, qui sont une nécessité. Et je voudrais aussi souligner, pour reprendre ce que nous disions avec le professeur Natzbaum tout à l'heure sur la réticence des médecins à signaler, que la loi de novembre 2015 a énormément clarifié le fait que lorsqu'un professionnel de santé signale au procureur de la République un risque de maltraitance, une présomption de maltraitance, il ne risque rien. Ni au plan disciplinaire, ni au plan civil, ni au plan pénal. Rien. À partir du moment où, bien sûr, ce n'est pas, il n'avait pas l'intention de nuire, bien évidemment, et qu'il respecte le signalement de façon scrupuleuse, comme nous l'avons mis dans la recommandation, qu'il ne désigne personne et qu'il ne se mette pas à place, ni la justice, ni la police. Mais il ne risque rien. En revanche, il peut être éventuellement poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Son obligation, elle est là, comme l'obligation citoyenne.
Vous dites qu'il peut être poursuivi. Est-ce que ça s'est déjà produit ?
À ma connaissance, non, dans ce sens-là. Bien évidemment, mais il faut que les choses progressent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça ne s'est pas produit que ça ne pourrait pas l'être. Et effectivement, que la marge de progression est tellement importante qu'il faut dire à nos confrères que c'est une nécessité absolue, qu'il faut qu'ils arrivent à vaincre leur peur. Et pour la vaincre, il faut surtout qu'ils respectent ce premier conseil de ne jamais rester seuls. Lorsqu'ils sont dans leur cabinet, qu'ils appellent des services hospitaliers. Qu'ils appellent éventuellement même le procureur de la République, qu'ils appellent les services, qu'ils ne restent pas seuls dans la décision de signaler ou pas. C'est un élément fondamental de ne jamais se sentir seul, démuni, et donc du coup par crainte de ne pas faire.
Professeur Catherine Adams-Baum, il y a aussi un élément qui est important, hein, qu'il faut porter à la connaissance des soignants, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apporter la preuve de maltraitance pour alerter la justice. C'est quand il y a un faisceau d'éléments qui sont présents et pas de preuves matérielles. Par exemple, il n'y a pas besoin d'une radio qui affirme qu'il y a eu tel ou tel sévice. S'il y a un certain nombre d'éléments de présomption, cela suffit.
Bien sûr, s'il y a un certain nombre d'éléments de présomption, cela suffit. Et il faut bien comprendre qu'ensuite, ça va être un dialogue avec la justice qui va diligenter ou pas une enquête médico-légale. Et en tout cas, le praticien ou le groupe de praticiens ne sera pas seul à décider de ce qui va advenir à cet enfant et son mode de garde, sa famille, etc.
Alors là, on pointe bien le rôle des soignants en la matière. On va maintenant, avec Eugène, qui est en ligne de Mopti au Mali, pointer également le rôle de certaines organisations, certaines ONG. Eugène, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre action, l'action que vous menez au Mali ?
Ok, je suis Eugène Koumaré. Je travaille dans une ONG qui est engagée dans la promotion et la protection de la dignité des droits de l'enfant ici à Mopti.
Vous avez sous votre charge combien d'enfants en moyenne la plupart du temps ?
La plupart du temps, compte tenu du projet, donc nous pouvons aller jusqu'à 10 enfants par an, selon les termes du projet.
Quel type de maltraitance rencontrez-vous avec votre organisation et les personnes qui travaillent à vos côtés ?
Oui, force est de savoir qu'ici au Mali, les enfants subissent les violences sous toutes les quatre formes, que ce soit physique, sexuelle, émotionnelle et la négligence. Donc, pour l'histoire, moi, en tant que conseiller juridique, je suis saisi très souvent des cas d'enfants maltraités sur la base physique, les violences faites aux enfants physiquement, et d'où le cas d'une petite fille de 4 ans qui a été maltraitée par ses parents, donc par sa belle-mère qui l'a séquestrée dans la chambre, qui l'a laissée durant toute la journée, ni boire, ni manger, sous peine puisque la belle-mère voyait l'enfant comme l'instabilité de son mari qui a eu cet enfant-là dehors. Donc, alertée par la population, donc j'ai été saisi du dossier. Directement, j'ai contenu de la convention qui reconnaît que l'enfant, pour son bien-être et son épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial adéquat, dans un climat de bonheur. Donc, j'ai saisi le juge pour une ordonnance de placement au sein de notre structure. Et il faut savoir qu'ici, à Mopti, seul le Bureau national catholique dispose d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les enfants victimes de ces violences. de ces violences-là.
Et la petite fille a pu être retirée de cette famille maltraitante. Est-ce qu'elle a pu, vous disiez, elle vivait avec son père, avec sa belle-mère, est-ce qu'elle a pu rejoindre d'autres membres de sa famille après qui ont pris le relais?
Oui, oui, puisque l'enfant a séjourné dans notre centre durant à peu près 6 mois, puisque l'enfant avait des séquelles physiques et des troubles psychologiques aussi, puisque quand il approchait l'enfant directement, l'enfant avait peur, et puis l'enfant puissait d'elle-même. Donc, elle avait des troubles psychologiques, donc on a fait cette prise en charge holistique, et au bout de ces 6 mois, quand l'enfant a été stabilisé maintenant, et j'ai encore saisi le juge des enfants, donc pour placer l'enfant, parce qu'à son temps, la maman de l'enfant était jusqu'au Burkina, donc n'était pas en relation avec le papa de l'enfant. Donc on a fait appel à la maman qui est venue, donc on a remis l'enfant au bout de ces 6 mois après stabilisation, l'enfant à sa mère biologique. Donc nous continuons à faire des missions de suivi post-réinsertion, donc pour voir encore l'état physique et psychologique de l'enfant, si l'état de l'enfant s'est amélioré toutefois.
Et au Mali aussi, comme au Sénégal, hein, tout à l'heure, on le voyait avec notre correspondante précédente, des problèmes particuliers qui concernent les enfants, les enfants talibés.
Oui, juste la preuve de contraire, juste à l'heure où je vous parle, on a un enfant talibé au sein de notre structure. Cet enfant talibé, souvent, selon les constats, les enfants talibés, dès à l'âge de 5 ans, les parents envoient leurs enfants pour aller apprendre le Coran. Donc ces enfants talibés, souvent leur maître coranique les oblige d'aller chercher à manger et leur impose souvent des quotas qu'on appelle ici des sommes d'argent à ramener chaque jour. Donc souvent ces enfants sont livrés à eux-mêmes dans les rues, dans les vagabondages et consorts-là. Donc ce phénomène-là, c'est un véritable phénomène qui sévit au Mali maintenant.
Merci beaucoup Eugène pour ce témoignage avec justement cette vision de l'éducation qui n'est pas forcément partagée par tous. Justement, docteur Cédric Grouchka, vous centrez aujourd'hui bien sûr avec la Haute Autorité de Santé l'action sur les médecins. Est-ce qu'il doit y avoir des interactions entre les différents milieux qui interviennent justement auprès de la jeunesse? C'est primordial.
Bien évidemment, et d'ailleurs nos recommandations, parce que ce sont les missions de la Haute Autorité de Santé s'adresse aux professionnels de santé, mais toutes les recommandations qui ont été faites, que ce soit le syndrome bébé secoué ou l'ensemble des maltraitances, notamment l'inceste, ont été réalisées en collaboration avec l'éducation nationale, la justice et les services du ministère de l'Intérieur. On ne peut pas s'attacher à un sujet sanitaire qui a un impact sociétal aussi important sans bien évidemment s'ouvrir en amont à l'ensemble des acteurs. Alors après, le relais de nos recommandations ont été aussi réalisées par l'éducation nationale, par la justice, par le ministère de l'Intérieur pour leurs différentes missions.
Professeur Catherine Adamsbaum, on a envie de poser cette question un petit peu provocatrice. Et le secret médical dans tout ça, il faut bien distinguer les choses. Quand il y a enfant maltraité, il n'y a plus le moindre secret médical.
Bien sûr. Puisque la priorité est de protéger l'enfant. Donc il faut toujours raisonner, même quand on est loin de la thématique, il faut toujours raisonner en se disant « comment puis-je protéger cet enfant ?»
Et justement pour la radiologie, hein, ce qui peut éventuellement même apporter à la justice une preuve concrète au-delà du diagnostic, est-ce qu'il y a une formation particulière sur cette thématique, une sensibilisation particulière, notamment en école de médecine ?
Oui, il y a une prise de conscience ces dernières années de plus en plus importante et il y a des enseignements, par exemple dans les modules de pédiatrie, les étudiants apprennent spécifiquement cette thématique et depuis quelque temps, il y a un diplôme interuniversitaire créé à Bicêtre, justement, à la faculté Paris Sud, sur la maltraitance de l'enfant, et qui est vraiment dédiée à cette thématique.
Merci beaucoup, hein, professeur Catherine Adamsbaum, chef du service imagerie pédiatrique à l'hôpital Bicêtre à Paris. On peut citer cette publication, cette traduction d'un ouvrage qui était sorti en 2013 aux éditions Lavoisier, Maltraitance, en anglais dans le texte maintenant, c'est Child Abuse, chez Springer, que vous avez co-signé avec le docteur Caroline Ressalmon, qui est pédiatre légiste. Intéressant parce qu'on peut avoir justement des éléments de comparaison avec les autres visions de justice, justement, des maltraitances infantiles. Merci aussi à vous, docteur Cédric Grouchka, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé. Merci d'avoir participé à cette émission de Priorité Santé. On reparlera très bientôt, bien sûr, dans notre émission de cette question majeure de la maltraitance infantile. On va maintenant rejoindre Madagascar pour reparler de l'épidémie de peste qui sévit sur place depuis 2 mois maintenant.
Priorité Santé sur RFI.
Avec ces chiffres, pour commencer, d'après l'OMS, la peste a fait depuis la fin août 94 morts à Madagascar, plus de 1100 cas recensés. Il y a 15 jours, dans l'émission, nous avions donné la parole aux équipes de l'Institut Pasteur d'Antananarivo. Aujourd'hui, nous allons 350 km plus à l'est, Tamatave. La semaine dernière, Médecins sans frontières a commencé à travailler avec des équipes locales. En ligne avec nous, le docteur Hilde de Clercq. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référente médicale pour Médecins sans frontières pour les fièvres hémorragiques et maladies à potentiel épidémique. Alors, pourquoi avoir choisi Tamatave, cette ville portuaire de la côte est de Madagascar? Pourquoi MSF a choisi précisément Tamatave pour intervenir?
C'est quand même la deuxième ou peut-être troisième ville du pays. Et c'est la deuxième touchée, la plus touchée, disons, dans cette épidémie-là. En plus, on voit qu'à Tamatave, les cas de peste qui se présentent sont surtout des cas de peste pneumonique ou donc pulmonaire. Et donc, il y a une forte chance que la transmission, en fait, se fait homme à homme. Et c'est comme ça que l'épidémie s'est étendue, comme ça, en ville de Tamatave.
Alors, la forme pulmonaire de la maladie, qui est transmissible par la toux, contrairement à sa forme bubonique, elle peut être fatale très rapidement, d'où l'urgence de la prise en charge, un facteur temps qui est totalement primordial.
Oui, c'est correct. Donc le problème au Madagascar, c'est que les autres années, c'est surtout des cas de peste bubonique qui se présentent, qui se transmet via des puces. Cette fois-ci, effectivement, c'est la forme pulmonaire qui se transmet de homme à homme. Heureusement, un traitement tôt peut vraiment sauver la plupart des personnes, mais il faut être tôt, comme dit. Donc une des choses qu'on est en train de faire ensemble avec le ministère et les autres acteurs, c'est d'encourager les gens d'aller dans les communautés et faire de la sensibilisation pour encourager les personnes à venir tôt se présenter quand ils ont une maladie pulmonaire.
Ça veut dire que dès que les personnes toussent, dès qu'il y a de la fièvre, dès qu'il y a une grosse fatigue, un signe inquiétant, il faut se rendre dans un centre de soins.
Oui, c'est exactement ça. Donc tous les centres de soins de base, les CSB comme ils appellent ça au Madagascar, ils sont préparés, ils connaissent la définition de cas, ils savent identifier des cas. Il y a aussi un système de référence, donc il y a des ambulances qui sont installées spécialement pour des cas suspects d'avoir la peste, qui amènent les gens aux hôpitaux spécialisés, donc les centres de traitement de peste, où un autre médecin va encore une fois reconfirmer le diagnostic de peste et après la personne est directement mise sous traitement. C'est un traitement gratuit qui dure 8 jours et c'est surtout les premiers 4 jours où on demande aux gens de vraiment rester dans le centre parce que là, ils peuvent être encore contagieux envers leurs proches, envers d'autres personnes. Après ces 4 jours, on préfère qu'ils restent chez nous pour finir leur traitement, mais ils sont plus isolés, disons. Donc là, la famille peut venir et là, ils peuvent bouger. Et donc, c'est un traitement, ouais, c'est un traitement d'une semaine et après, en général, les gens vont directement beaucoup mieux. Ils peuvent rester un tout petit peu faibles, mais c'est un traitement qui marche très très bien.
Donc très important, c'est gratuit. Et autre chose importante, des recommandations pour l'entourage. Qu'est-ce qu'il faut faire quand dans la famille, quelqu'un justement est pris en charge à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est rentré à la maison, qu'on a conduit cette personne à l'hôpital?
Oui, un autre grand volet de l'intervention, c'est justement de suivre les familles et les proches des patients qui ont la peste. Parce qu'en fait, on peut déjà les mettre sous traitement quand on a la suspicion qu'ils peuvent être contaminés eux-mêmes ou infectés eux-mêmes avec la peste. Donc avant qu'ils montent même des signes ou des symptômes. L'idée, c'est que si on les met sous traitement, c'est un traitement oral avec des antibiotiques, en fait, ils n'attrapent pas la maladie. Donc, on va, tous les familles et tous les proches des patients de peste vont être visités par des relais communautaires et justement, ils vont être proposés de prendre déjà les médicaments déjà en avance, en fait. Donc, ça, c'est la meilleure chose à faire. Si, par contre, un membre de famille n'était pas mis sous prophylaxie, donc sous ce traitement préventif, et il présente avec des symptômes, donc c'est effectivement c'est de la fièvre, c'est de la toux, c'est des problèmes de respirer, il doit se présenter directement au centre où il va recevoir justement les traitements contre la peste. Pour le reste, le plus important, c'est de comprendre que c'est transmis donc de homme à homme via en fait des gouttelettes. Donc c'est vraiment les gens qui sont des contacts proches des patients peste qui vont être les nouveaux patients. Et contact proche, ça veut dire famille, peut-être habiter dans la même maison, éventuellement des collègues qui travaillent proches d'un patient. Ceux-là sont à risque et c'est via des gouttelettes, donc quand un patient tousse, qui peut se contaminer.
Avec des postillons, notamment quand on parle près de quelqu'un, ou bien se laver les mains aussi, autre mesure d'hygiène très simple avec du savon. Ne pas hésiter en tout cas à aller vers son centre de soins à Madagascar, à Tamatav, en cas de moindre doute. Merci beaucoup. Priorité Santé touche à sa fin. Demain, nous parlerons des troubles de l'audition, cause, prise en charge, réponse adaptée. L'émission, le numéro 33 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.